Vous écoutez la Wikiradio du CNRS, une web radio participative et collaborative.
Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur la Wikiradio du CNRS. On va parler de la high-tech qui est partout et qui a toute sa place dans le domaine de la santé. Des robots aident les chirurgiens à mieux intervenir, des appareils qui utilisent des techniques inédites permettent de faire des diagnostics très précis. Ce huitième et dernier débat du week-end que vous écoutez en direct réunit 5 participants. Ils sont tous passionnants et une heure, je crois que ça va être un peu court. Je vous présente le professeur Philippe Cinquin. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes un pionnier de la recherche sur les gestes médico-chirurgicaux assistés par ordinateur. Vous inventez de nouvelles méthodes pour aider les chirurgiens. Vous êtes praticien hospitalier, directeur du laboratoire technique de l'ingénierie médicale de Grenoble, un laboratoire qui réunit 180 personnes. Et vous êtes co-directeur du Centre d'investigation clinique innovation technologique de Grenoble. Vous êtes professeur à l'Université de Grenoble-Alpes et au CHU de Grenoble. Mathias Fink, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes un physicien qui s'intéresse aux applications médicales. Vous êtes le créateur et l'ancien directeur de l'Institut Langevin à l'École physique chimie. Vous êtes membre de l'Académie des sciences, titulaire de la chaire d'innovation technologique du Collège de France. Et vous êtes un spécialiste de l'application des ondes à l'imagerie biomédicale. Et vous allez nous raconter ce que vous faites, ce que vous avez découvert. Francesco Cinesta, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur et chercheur à l'École centrale de Nantes et à l'Institut de recherche en génie civil et mécanique. Vous développez des méthodes d'aide au diagnostic pour les chirurgiens. Vous êtes un spécialiste de la simulation. François Cossian, bonsoir. Vous êtes l'industriel de cette table ronde, de ce débat. Vous êtes ingénieur chez General Electric Healthcare. Vous êtes un spécialiste de l'imagerie interventionnelle. Pour faire court, vous voulez permettre aux chirurgiens d'opérer avec de toutes petites incisions, mais avec des images aussi bonnes qu'au cinéma. Et puis à votre droite, le professeur Rémi Nizard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chef du service de chirurgie orthopédique et traumatologique de l'hôpital Lariboisière et vous nous direz comment le numérique peut aider les chirurgiens orthopédiques. Vous êtes professeur de chirurgie orthopédique à Paris 7. Alors on va commencer cette table ronde. Pour commencer, on va évoquer quelques techniques d'aide au diagnostic. Et on va commencer avec vous, Mathias Fink. Vous êtes un physicien, vous vous intéressez aux applications de la physique vers la médecine et vous avez mis au point un échographe ultra, ultra rapide. Qu'est-ce que c'est ?
L'idée, c'était de faire l'image du corps humain, non pas 50 fois par seconde, ce qui est déjà pas mal, mais de le faire 10 000 fois par seconde. Et en voyant l'intérieur du corps humain 10 000 fois par seconde, on constate qu'il y a des espèces d'ondes mécaniques assez lentes qui se propagent dans le corps humain. Et la vitesse de ces ondes dépend en fait de la dureté du corps humain. Et en filmant ces ondes mécaniques lentes, on peut dresser la carte de l'élasticité du corps humain avec une grande précision. Et on a donc développé cette technique à partir d'un concept qui s'appelle le concept des miroirs à retournement temporel. Et on a fait cet échographe, et cet échographe est un succès, puisque une compagnie a été créée à partir des recherches faites dans notre laboratoire au CNRS, une compagnie qui a 170 personnes maintenant, qui s'appelle Supersonic Imagine, et cet échographe ultra rapide qui s'appelle l'Explorer, puisqu'il est fabriqué à Aix-en-Provence, il y en a déjà 1350 qui ont été installés dans le monde, et qui servent avant tout à améliorer le diagnostic du cancer du sein, du cancer du foie, de la prostate, parce qu'ils donnent une carte quantitative et très précise de la dureté. C'est ce que le médecin fait lorsqu'il fait de la palpation. Et souvent, le médecin, même dans une opération, a besoin de savoir si les tissus qu'il a devant lui sont durs ou mous. Nous, avec cet appareil, on peut faire une image 2D ou 3D de cette élasticité. Et on peut la voir évoluer au cours du cycle cardiaque, on peut la voir évoluer au cours du temps. Et c'est un outil quantitatif très utile. Donc, c'est comme ça que notre projet a débouché. On a une deuxième société qui a été créée aussi à partir de notre labo qui s'appelle EcoSens, qui fait un produit qui n'est pas un produit d'imagerie, mais c'est un produit qui donne la dureté moyenne des tissus, et c'est un produit qui est dévolu au foie, à la fibrose et à la cirrhose. Et c'est aussi un bon succès, puisque EcoSens a 85 personnes et vend un appareil qui s'appelle le FibroScan.
Alors, cet échographe dont vous nous avez parlé, il ressemble à quoi ? Est-ce qu'il ressemble aux échographes qu'on a l'habitude de voir dans les cabinets médicaux ?
Il a exactement la même tête qu'un échographe de General Electric, de Philips, de Siemens, sauf qu'à l'intérieur, il est conçu quand même très différemment. C'est un échographe où tout est fait en soft. Toutes les informations échographiques arrivent, sont envoyées dans une gigantesque mémoire, et tous les traitements sont faits en soft. De l'extérieur, il a la même tête qu'un autre appareil, mais de l'intérieur, il est quand même très, très différent.
À la base de cet échographe, il y a donc des miroirs à retournement temporel. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous expliquer ce que c'est, simplement ?
Très simplement, il s'agit de faire revivre à une onde sa vie passée. Si on savait faire ça pour nous, ce serait encore mieux. Mais pour les ondes, c'est déjà pas mal. Et on a trouvé une façon de le faire pour des ondes ultrasonores. Et lorsque vous voulez faire l'image d'un objet, en fait, vous envoyez une onde sur cet objet, vous regardez ce qui revient de l'objet, et si vous êtes capable de faire revivre sa vie passée, vous retrouvez la forme de l'objet, donc vous pouvez faire son image. Et basé sur ce principe, on a développé ce qui s'appelle un processeur à retournement temporel, qui permet maintenant, grâce aux cartes de jeux vidéo qui sont ultra rapides, de pouvoir faire 10 000 fois par seconde l'image du corps humain.
Alors, en face de vous, Rémi Nizard et Philippe Cinquin, tous les deux, vous êtes médecins, et je vous vois et vous regardez, vous écoutez Mathias Fink, mais avec des yeux écarquillés. Qu'est-ce que vous en pensez, Rémi Nizard ? Vous ne connaissiez pas cet échographe ?
Non, je ne connaissais pas, mais je dois dire que ça m'interpelle parce que, voilà, dans une pratique courante, qui est ce que je fais tous les jours, on s'aperçoit qu'il y a des déformabilités différentes des patients lorsqu'on les opère et quand on essaye de faire des incisions de plus en plus réduites. Et cette déformabilité, on n'a pas de moyens cliniques pour la mesurer. Donc j'imagine bien que, pour le coup, ce type d'échographe peut nous guider, peut nous aider à choisir à la fois une voie d'abord, à la fois la taille de la voie d'abord, savoir ce qu'on pourrait promettre entre guillemets au patient en lui disant on va pouvoir faire une incision courte, on sera obligé de faire une incision plus longue avec un petit peu plus, non pas de dégâts, mais un tout petit peu plus voilà, d'exposition, parce que sinon on ne va pas y arriver, parce qu'on le sait bien, il y a vraiment des déformabilités extrêmement différentes. Alors là, c'est de la perception clinique hein, que je ne mesure pas, mais quand il m'arrive d'inciser un patient, je sais si je vais avoir des difficultés ou pas à faire une voie d'abord courte ou longue. Voilà, c'est tout l'intérêt, à mon avis, de ça.
Mathias Fink.
On peut en effet quantifier parfaitement les plages d'élasticité, de variation d'élasticité, par exemple sur le muscle. Lorsque vous contractez votre muscle, on voit de quelle dureté à quelle dureté vous évoluez. Et je pense que ce serait un outil intéressant pour préparer vos interventions. Je pense qu'aujourd'hui, on a surtout poussé les applications de ce concept au niveau de la cancérologie, aussi au niveau vasculaire, mais au niveau musculo-squelettique, c'est aussi très intéressant, et je pense qu'il y a des applications à discuter plus tard.
Pour préparer les interventions au bloc opératoire, Francesco Cinesta, vous êtes professeur à l'École centrale de Nantes et vous avez développé des outils numériques qui peuvent aider au diagnostic et aider justement le chirurgien à préparer son intervention.
Oui, en effet. Les principales, quand on parle des chirurgies assistées par ordinateur, on a fait des grands progrès en tout ce qui concerne la robotique, en tout ce qui concerne les images. On a parlé des vitesses. Par contre, dans la partie mécanique, c'est-à-dire quand on veut doter à ces images de la mécanique, comment les organes vont se déformer parce qu'on va appliquer une force, les chirurgiens vont appliquer une force sur l'organe. Là, on s'avère qu'il y a une grande difficulté parce que si même pour les yeux, 24 photogrammes par seconde, on a la sensation qu'on est dans la continuité. pour la toucher, il faut au moins 1000 résolutions par seconde pour avoir la sensation de continuité. Donc ça veut dire que pour des comportements qui sont très compliqués d'un point de vue de la mécanique des organes, être capable de pouvoir réagir en temps réel, ça veut dire résoudre un problème qui est non linéaire de la mécanique avec des lois de comportement qui dépendent du patient et qu'on va capturer quelques secondes avant, et il faut essayer de résoudre ce problème avec un milliseconde. Donc effectivement, ça c'est un grand challenge, parce que sans ce type de qualité, on a mal imaginé la vidéochirurgie quand il va s'agir d'avec un robot intervenir quelqu'un qui se trouve à 10 000 km.
Oui, mais vous m'avez dit chaque patient est différent, chaque intervention est différente. Rémi Nizard, vous n'allez pas me contredire. Mais vous développez des techniques qui permettent de prédire comment vont réagir les organes ou une tumeur.
Effectivement. Résoudre un problème pour un organe réel en un milliseconde, aujourd'hui, c'est absolument impossible. On pourrait imaginer de le faire si on prend les plus gros ordinateurs du monde. Mais ça, effectivement, serait quelque chose qui serait anecdotique parce qu'on ne pourrait pas les mettre dans la pratique de tous les jours avec des moyens raisonnables. Donc, pour s'affranchir de ces difficultés, notre approche, c'est créer quelque chose qui est très traditionnel. Ça s'appelle un ABAC, qu'on a bien connu dans la pratique de l'ingénieur.
Ah, qu'est-ce que c'est ?
Un ABAC, c'est une représentation, il y a quelques dizaines d'années, c'était une représentation graphique où on avait la solution d'un problème pour tout paramètre. Ça veut dire que nous, avec les moyens informatiques d'aujourd'hui, offline, ça veut dire pas pendant le moment où on est en train d'intervenir, on a créé une solution qui est paramétrique, très générale. On a créé la solution de la déformation d'un foie pour n'importe quelle force, appliquée dans n'importe quel point, qui a n'importe quelle géométrie et qui a n'importe quelle propriété mécanique. Ça veut dire qu'on connaît la déformation d'un foie, de n'importe qui, et pour n'importe quelle force que le médecin pourra appliquer. Une fois qu'on l'a créé offline, après, pendant les interventions chirurgicales, la seule chose qu'on fait, c'est particulariser la solution.
Mais ça veut dire que vous rentrez dans votre ordinateur tous les paramètres du patient,
exactement,
les paramètres de son foie, etc.
Exactement. Ça veut dire qu'on fait un petit scanner, on identifie, on fait une petite palpation, on va ou on utilise des moyens plus sophistiqués, on identifie les propriétés mécaniques. Et à ce moment-là, nous, on peut guider les médecins en temps réel. Parce que tout ce qui pouvait être calculé l'a été fait.
Le chirurgien pourrait même faire son intervention virtuellement avant de faire la véritable intervention.
Il pourrait planifier l'intervention qu'il va faire pour voir qu'est-ce qu'il va se trouver le lendemain et pour n'avoir pas de surprise. Et de l'autre côté, quand on va intervenir quelqu'un qui se trouve à 10 000 km, jusqu'à présent, il va intervenir en faisant un mouvement et le robot va obéir. Mais il n'a pas la sensation de la force qu'il faut faire parce que c'est trop lent. Avec ça, il pourrait avoir les retours de force en temps réel.
Professeur Rémi Nizard, vous êtes chirurgien, qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, je pense que c'est effectivement des techniques qui sont extrêmement importantes, les deux techniques présentées. Il y a des aspects. Il y a premièrement l'aspect planification. C'est-à-dire que le bloc opératoire, il faut le concevoir comme un environnement instable et dans lequel tout ce qui peut stabiliser l'équipe, le chirurgien, est quelque chose d'important. Si vous pouvez donc planifier les choses se passeront presque à coup sûr mieux. Donc c'est vraiment quelque chose de très important à comprendre que de pouvoir planifier les interventions. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de la déformabilité, pouvoir prévoir. Ça permet de prévenir le patient, ça permet à nous chirurgiens d'être prêts d'être tranquille dans la tête pour pouvoir faire les choses. Et je pense que ça c'est un mouvement général de la chirurgie, c'est-à-dire essayer de rendre le bloc opératoire il faut se départir du mythe du héros solitaire, du chirurgien seul et qui va vous réaliser un exploit à chaque intervention. Il faut que tout ça soit reproductible, il faut que ce soit prévisible, il faut que les choses se passent d'une façon assez naturelle.
Professeur Philippe Cinquin, ça vous parle tout ça ? Vous êtes un pionnier de la recherche sur les gestes médico-chirurgicaux assistés par ordinateur et dans votre laboratoire, on conçoit des systèmes qui vont permettre d'analyser le geste du chirurgien, c'est bien ça ?
Oui, c'est bien ça. Donc, bien sûr, toutes les techniques qui ont été évoquées ici sont extrêmement intéressantes parce que dans une intervention chirurgicale, comme l'a rappelé le professeur Nizar, on a besoin de saisir des informations de diverses natures, des informations cliniques, mais aussi des informations de type image. L'échographie en est un exemple, mais aussi toutes les sources d'images potentiellement sont intéressantes. Et pendant l'intervention, des informations qui vont être de nature image à nouveau, mais aussi électrique, mais aussi mécanique. Et donc l'enjeu pour le chirurgien, c'est d'abord d'être capable de mélanger toutes ces images, de les fusionner, d'arriver à une sorte de patient virtuel dans lequel sont réunies toutes ces informations, de manière à pouvoir planifier l'intervention idéale, c'est-à-dire de prévoir les conséquences du geste qui va être défini. Et une fois que cette planification a été faite, donc on dispose de l'intervention optimale, mais encore faut-il être capable de la réaliser. Mmh. Et là, on va voir arriver donc des outils qui vont permettre d'aider à cette réalisation, qui pourront être ou bien des outils de navigation chirurgicale ou bien des robots chirurgicaux. Et on va devoir boucler cette boucle, parce que dès que le geste commence à être réalisé, eh bien les informations dont on disposait ne sont plus à jour. Donc il faut à nouveau des moyens préopératoires pour acquérir des informations. Et si on va un cran plus loin, pour aller dans le sens de la question que vous posiez, eh bien oui, on commence à être capable, avec ces outils qui ont donc été conçus pour aider le chirurgien à dépasser ses propres limites, on devient capable de suivre ce qu'il est en train de faire et de lui donner la possibilité de comparer à tout moment ce qu'il a lui-même choisi, sa stratégie optimale, avec ce qui est en train d'être réalisé.
Mais quelles sont les méthodes que vous inventez pour aider les chirurgiens ?
Ah bien, écoutez, les méthodes, elles font appel à ces trois dimensions que j'ai évoquées, c'est-à-dire la perception, donc concevoir de nouveaux capteurs qui vont permettre d'avoir des informations, typiquement ce dont on a parlé sur les outils développés par l'équipe de Mathias Fink nous intéresse énormément parce que connaître la mécanique, c'est important, mais aussi des outils donc, qui vont... Donc, dans cet exemple-là, je pourrais donner l'exemple de nouveaux capteurs. Typiquement, l'échographie aujourd'hui, elle rentre à l'intérieur du patient, y compris pendant l'intervention chirurgicale. Donc, un des exemples intéressants, ce sont des échographes miniaturisés qui peuvent être disposés dans l'urètre même du patient pendant des interventions, lorsqu'on enlève la prostate d'un patient, par exemple. Et le fait de pouvoir avoir un échographe aussi miniaturisé, donc qui va être à l'intérieur même de la prostate, c'est-à-dire de l'urètre, donc au contact même de la prostate, ça donne des images fabuleuses à condition d'être capable de les fusionner avec les images préopératoires. Donc là, ça sera la deuxième classe de choses qu'on invente, c'est-à-dire justement ces méthodes qui permettent de mettre en correspondance des référentiels différents, qui permettent de dire l'information que j'ai dans cet échographe qui est donc positionnée dans l'urètre et il peut bouger, eh bien, je suis capable de la mettre dans la caméra, dans l'image de la caméra que regarde le chirurgien. Donc ça, c'est la fusion des images. Et la troisième type de choses qu'on invente, eh bien, ce sont des systèmes qui vont permettre d'aider le chirurgien. Donc des espèces de capteurs, des caméras un peu spécialisées qui sont capables de suivre les outils du chirurgien en temps réel. Ce qui fait qu'à tout moment, on est capable de savoir où se trouve l'outil. Comme on est capable aussi de traiter les images préopératoires, on sait où sont les organes. Et donc, on a accès à la distance entre l'outil du chirurgien et l'organe. Et y compris dans des cas où l'organe n'est pas visible directement par le chirurgien. C'est ça qui est fabuleux.
Quelles sont les questions auxquelles vous essayez de répondre actuellement dans votre laboratoire ? Je rappelle que votre laboratoire compte 180 personnes et que vous réunissez des scientifiques, des médecins et puis beaucoup d'autres spécialités.
Alors, notre laboratoire, il est à l'interface entre les sciences du vivant et les sciences de l'ingénieur et de l'information en particulier. Donc, sur les 280 personnes du laboratoire, la dimension chirurgie assistée par ordinateur, c'est une équipe d'une quarantaine de personnes à peu près. Et donc, ce qui nous unit dans ce laboratoire, eh bien, c'est précisément cette démarche qui consiste à partir par des discussions très étroites avec les spécialistes médicaux. Donc, nos projets naissent quasiment toujours d'une rencontre, d'une discussion qui a lieu entre un orthopédiste, un urologue, un chirurgien digestif.
Un exemple de question,
puisque vous êtes orthopédiste et vous connaissez bien cet exemple-là. En 95, mon collègue Dominique Saragaglia, spécialiste de chirurgie orthopédique qui pose sans doute à peu près 200 prothèses totales de genoux par an, vraiment un des excellents spécialistes de sa spécialité, vient nous voir en nous disant, dans ma pratique, j'ai à peu près 20% de prothèses qui sont imparfaitement placées. Et donc, vous voyez, le point ici, c'est identifier la limite d'un problème et essayer de trouver une solution. Et donc, la question, c'était, est-ce que vous pouvez nous aider à améliorer cette question-là ?
Et la réponse ?
Eh bien, la réponse, elle passe d'abord par comprendre le problème, par le fait d'aller au bloc opératoire, de travailler avec lui, de voir ce qui ne va pas, et puis de réfléchir, de venir avec des prototypes qui doivent se faire d'une manière très collaborative, c'est-à-dire que ce n'est pas une question qui est posée et puis on revient quelques années après avec la solution. Non, c'est quelque chose qui se co-construit avec le clinicien et aussi avec l'industriel. Et en l'occurrence, la réponse a été le premier système de navigation chirurgicale utilisé en orthopédie, donc qui permet de suivre la scie du chirurgien pendant le geste qui lui permet de couper le fémur et le tibia pour poser correctement les pièces prothétiques et de suivre donc en temps réel la position de ces dispositifs et de les suivre par rapport à un plan qui doit permettre d'aligner parfaitement le membre inférieur. Et ça donnait un système qui maintenant est largement diffusé. Plus de 100 000 patients en ont bénéficié.
Rémi Nizard, je vous vois et je vois que vous connaissez très bien le sujet. Hein.
Ouais, ça fait à peu près 20 ans que je le pratique quotidiennement. Donc effectivement, et avoir travaillé pendant 20 ans sur ces sujets-là, alors je vais donner une connotation un peu négative à tout ça. Ce qui me désespère dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on sait que les systèmes de chirurgie assistée par ordinateur, dans le cadre des prothèses totales de genoux, donnent des résultats techniques supérieurs aux techniques conventionnelles. Or, aujourd'hui, en France, c'est 10% des prothèses qui sont posées avec un système de chirurgie assistée par ordinateur.
Et comment cela se fait-il ?
C'est la difficulté de la diffusion d'une technologie en chirurgie. C'est ce que j'essayais de vous expliquer tout à l'heure, mais peut-être maladroitement, mais à partir du moment où vous amenez des nouveaux appareils dans un bloc opératoire, vous amenez de l'instabilité dans un bloc opératoire. La composante, psychologique, je dirais, de l'acceptation d'une technique à l'intérieur d'un environnement instable, c'est extrêmement difficile. Et comme ça réclame de toute façon une courbe d'apprentissage, mais qui n'est pas très longue, la courbe d'apprentissage d'une chirurgie assistée par ordinateur, c'est 30 patients. C'est pas plus, on l'a démontré, c'est assez clair là-dessus. Mais faire l'effort sur 30 patients pour une équipe chirurgicale, c'est-à-dire qui comprend des chirurgiens, des penseuses, des anesthésistes, etc., faire cet effort pendant 30 patients, c'est difficilement acceptable, puisque seulement 10% des prothèses sont posées, alors qu'on montre aujourd'hui de façon très claire, toutes les méta-analyses montrent que vous obtenez un résultat technique supérieur, et il y en a même une récente qui montre que vous obtenez un résultat clinique supérieur. Donc c'est extrêmement troublant de disposer d'outils qui sont vraiment simples, qui sont utilisables, mais qui, pour des raisons psychologiques, ne traversent pas le milieu chirurgical.
Philippe Cinquin.
Je partage tout à fait ce que vous avez dit. J'ajouterais juste qu'il y a aussi une dimension au-delà de cet aspect d'appropriation par l'utilisateur. Il y a aussi une raison purement économique. Et c'est la difficulté de faire accepter le remboursement de ces dispositifs. Il faut bien comprendre qu'on est dans une situation où aujourd'hui, ces dispositifs rendent service à la communauté parce que les prothèses qui seront imparfaitement placées dans 5 à 10 ans, on sait qu'elles vont se déceler à peu près pour la moitié d'entre elles.
Donc
il faudra recommencer. Donc au-delà de l'aspect difficile pour le patient qu'on imagine bien, c'est aussi un coût considérable pour la sécurité sociale. Donc l'utilisation de ces dispositifs serait tout à fait gagnante pour la sécurité sociale, mais ce n'est pas la sécurité sociale qui aujourd'hui va payer ces dispositifs puisqu'ils ne sont pas encore remboursés. Donc le premier patient, c'était en 97. Ce projet, il a démarré en 95. Donc on est aujourd'hui dans une situation où le remboursement de ce dispositif est un enjeu. Et comme vous l'avez dit, la difficulté, et ce qu'on a raté à l'époque, pour être très honnête, c'est de constituer des bases de données cliniques suffisamment argumentées parce qu'on aurait pu, on aurait dû avoir une longue série de patients parfaitement documentés sur lesquels on aurait été certainement plus rapide pour démontrer le service médical rendu. Et c'est ça qui a motivé l'INSERM à lancer les centres d'investigation clinique, innovation technologique, précisément pour mettre au point des méthodes pour démontrer ce type de choses.
Avant que vous nous racontiez comment vous travaillez, Rémi Nizard, j'aimerais avoir le point de vue de Philippe Caussian. Vous êtes
François Caussian.
François Caussian, pardonnez-moi. Vous, chez General Electric, vous proposez une imagerie qui permet de guider le geste du chirurgien. Est-ce que cette imagerie est bien acceptée dans les blocs opératoires ou est-ce que vous sentez cette difficulté ?
Le type d'imagerie sur lequel je travaille est effectivement très bien accepté, qui a une large, je veux dire, une longue histoire qui est issue de, essentiellement de la radiographie. Hein, donc on parle de l'ensemble des techniques de guidage des interventions minimalement invasives avec l'imagerie à rayon X. Donc typiquement, c'est le type d'intervention, c'est la pose de stent, l'angioplastie, ce genre de choses. Donc c'est une technique...
Concrètement, expliquez-nous comment ça se passe.
Concrètement, c'est aller insérer par une voie naturelle. Donc essentiellement, là je vais vous parler des interventions vasculaires. Donc vous avez par exemple une occlusion d'une artère coronaire, donc vous avez une sténose, vous allez intervenir sur le patient en introduisant un objet filiforme qui est un cathéter que vous allez remonter par l'aine jusqu'à l'artère coronaire.
Et donc là, tout ça c'est guidé par l'imagerie.
Alors c'est guidé par l'image, par définition c'est un geste qu'on peut appeler un geste chirurgical, mais par définition vous n'ouvrez pas le patient, mis à part une petite incision. Donc vous avez besoin de voir ce qui se passe à l'intérieur du patient, de l'extérieur. Alors bien évidemment, on peut introduire des sondes d'ultrason, des choses comme ça, qui sont des choses un petit peu particulières, qui permettent de faire un zoom sur une zone particulière. Mais dans tout ce qui concerne l'acte de guidage, vous voyez ce qui se passe dans le patient de l'extérieur. Donc c'est une espèce de caméra. Et le champ chirurgical devient virtuel, puisque vous n'avez plus accès avec vos yeux au champ chirurgical, vous ne voyez pas l'organe, vous regardez un écran de télévision.
C'est comme un jeu vidéo.
Un jeu vidéo très sérieux, parce que c'est un geste médical très encadré, et donc vous allez aller réouvrir l'artère avec des petits instruments. Donc c'est un ballonnet que vous gonflez, et ce ballonnet généralement dépose sur la paroi du vaisseau un étai qui est un petit objet filiforme, très petit généralement, un treillis métallique qui s'appelle un stent.
Voilà, donc, on débouche les tuyauteries.
On débouche les tuyauteries. Alors évidemment, ce type de technique a été transposé en imagerie, en intervention du cerveau. Donc vous avez un anévrisme du cerveau, vous allez aussi aller déployer quelque chose dans l'anévrisme pour le colmater. Vous avez des interventions dites d'embolisation, donc ça s'est déployé aussi en oncologie pour aller traiter des tumeurs. Et il y a des interventions qui sont un petit peu plus, un peu plus invasives, avec des abords dits chirurgicaux, avec des incisions un peu plus grosses parce que vous avez beaucoup de matériel à monter, qui sont par exemple les interventions des anévrismes de l'aorte. Donc là, vous avez des choses un petit peu plus délicates. Mais l'idée générale, c'est de monter tout le matériel d'intervention à travers des voies naturelles, en particulier les vaisseaux.
Et avec des techniques qui sont très peu invasives pour les patients.
L'idée générale, effectivement, c'est de développer les techniques non invasives ou minimalement invasives. Si on parle de l'angioplastie coronaire, ça peut remplacer un geste chirurgical très invasif qui est le pontage coronarien. Donc chaque fois que l'indication va être remplie, on va préférer un geste minimalement invasif, petites incisions, essayer d'opérer un petit peu à distance, aller déployer des outils, aller intervenir sur le patient par des orifices minimalistes, et ça requiert de l'imagerie externe pour pouvoir guider le geste chirurgical.
Professeur Rémi Nizard, comment est-ce que vous travaillez, vous? Vous êtes entouré d'ordinateurs. Qu'est-ce qu'il y a dans le bloc opératoire où vous intervenez qu'il n'y avait pas il y a 10 ou 20 ans?
Il y a 20 ans, puisque moi j'ai commencé il y a 20 ans. Oui. Donc on a un petit peu plus d'ordinateurs, c'est clair, pour faire de la navigation, qui est maintenant une activité quotidienne et qui prend le temps d'une intervention chirurgicale standard, enfin, c'est-à-dire une prothèse de genou. Aujourd'hui, y compris assisté par ordinateur, c'est entre 55 minutes et 1h05, ce qui est le temps tout à fait convenable pour la réalisation d'une prothèse totale de genou. Et on a les informations en direct. Alors, moi, je rebondis sur ce que disait Philippe Cinquin sur l'apport et Monsieur Fink, sur l'apport des connaissances pendant l'intervention, qui est un élément absolument absolument important et qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui. Je vous donne un exemple sur la prothèse de genou. Il y a une très jolie étude qui a été faite par les collègues belges où ils ont posé une prothèse de genou et puis ils ont attendu, et ils ont regardé l'axe, ils ont regardé la laxité du genou, c'est-à-dire comment le genou bougeait quand on le sollicitait. Mm-hmm. Et ils sont partis 30 minutes boire un café, ils sont revenus. Et on s'aperçoit que les résultats à 30 minutes, du fait des caractéristiques viscoélastiques des parties molles qui entourent le genou, eh ben on prenait 2 degrés dans un plan frontal, c'est-à-dire en regardant le malade de face, et 3 degrés dans un plan sagittal. Donc très important, c'est d'avoir ces informations au préalable. On sait qu'il y a des malades qui se déforment plus que d'autres, comme je le disais tout à l'heure, et donc de prévoir éventuellement le comportement viscoélastique des structures ligamentaires est quelque chose de très important pour nous en ostéo-articulaire, pour dire le genou va se comporter comme ça, par exemple, dans ce cadre-là. Donc c'est la conjonction effectivement de ce que l'on peut obtenir au bloc opératoire, mais d'informations qu'aujourd'hui on n'a pas et qui sont accessibles. Voilà, les échographes donnent ces informations, l'imagerie donne des informations statiques par exemple sur les os, mais il y a d'autres paramètres qui sont importants à avoir et qu'on n'a pas aujourd'hui et qui sont probablement extrêmement importants pour le fonctionnement ultérieur. Bon, là, je donne l'exemple d'une prothèse de genou, mais c'est aussi vrai probablement pour une prothèse de hanche ou même pour une prothèse vasculaire.
Est-ce que... Oui, Francisco Chinesca.
C'était pour répondre, c'est la nécessité d'identifier les comportements mécaniques, mais finalement, ce qui intéresse, c'est être capable de faire une prédiction en temps réel vers qu'est-ce qui va se passer dans
le
futur.
C'est là-dessus que vous travaillez.
Exactement. C'est, effectivement, c'est en temps réel et online qu'on va déterminer les propriétés mécaniques. Mais ce n'est pas seulement parce qu'on calcule les propriétés mécaniques qu'on peut prédire. Maintenant, il va falloir prédire à partir du comportement mécanique qu'est-ce qui va se passer après. Quelles seront les déformations dans le temps qui vont venir par les comportements viscoélastiques des
organes. C'est un peu ce qu'on a compris, c'est-à-dire que on a réfléchi pendant des années de façon très statique en considérant que voilà, les comportements étaient des comportements relativement simples, élastiques. Ouais. Ce que l'on comprend et ce que l'on intègre de plus en plus, c'est le comportement visco-élastique, ce qui est un comportement totalement différent parce que dans le temps, ça ne se comporte pas pareil.
Exactement.
Et c'est particulier à chaque patient, si j'ai bien compris.
Et c'est particulier à chaque patient en fonction des caractéristiques du collagène, en fonction de l'âge, en fonction de tout un tas de facteurs.
François Caussian.
Oui, je voulais réagir un petit peu sur cette thématique-là et en particulier sur la thématique vasculaire. On a maintenant de manière très routinière la capacité de fusionner une imagerie temps réel, donc c'est ce qui se passe à l'instant T dans le champ opératoire, donc on voit les outils, avec malheureusement dans les techniques d'imagerie actuelles une certaine pauvreté de l'image, on ne voit pas tout très très bien, en particulier au niveau tissulaire, et si on veut bien voir les choses, en particulier en vasculaire, on injecte ce qu'on appelle un produit de contraste, ça se fait. Mais sur des grosses artères comme l'aorte, par exemple, vous ne pouvez pas constamment injecter du produit de contraste. C'est quelque part à très haute dose un petit peu toxique. Donc qu'est-ce que vous utilisez? Vous allez utiliser l'imagerie préopératoire. Donc le patient arrive toujours avec un examen scanner. Et on sait maintenant de manière très très facile, en un clic, importer cette imagerie scanner, par exemple une jolie représentation de l'aorte du patient, et l'incruster sur l'image temps réel. Donc c'est de l'imagerie un petit peu virtuelle, l'imagerie augmentée. La problématique, c'est que le patient dont vous avez pris une imagerie scanner le jour précédent et le patient qui est sur la table, ce n'est pas exactement le même objet. Il n'est pas installé de la même façon, les conditions d'hydratation du patient sont différentes et bien sûr, comme vous êtes en train d'intervenir sur le patient, vous déformez son anatomie.
Exactement.
Donc aujourd'hui on s'est recalé les deux images de manière un peu approximative, c'est déjà très très bien, mais si on était capable en temps réel, et c'est quelque chose qu'on n'a pas de manière routinière, on est en temps réel capable de réadapter, recaler cette image pré-opératoire avec ce qui se passe à l'instant T dans le patient, de telle sorte qu'on soit moins invasif, c'est quelque chose qui serait très intéressant.
Et c'est là-dessus que vous travaillez chez General Electric ?
On travaille sur des techniques qui nous permettent d'améliorer effectivement ce recalage, cette superposition. Alors, il y a des choses qui sont des techniques qui sont liées à la façon dont on conduit l'opération, des techniques qui permettent, dans notre jargon, de recaler localement, etc. Mais si effectivement on avait, comme le professeur Chinesca nous a expliqué tout à l'heure, la possibilité en temps réel de déformer cette image tridimensionnelle préopératoire en fonction des paramètres instantanés de ce qui se passe sur le patient, ça pourrait effectivement apporter quelque chose de fondamental.
Alors Francesco Chinesca.
Exactement, c'est parce que la veille, on avait mesuré par exemple l'organe, mais le jour de l'intervention, on va les mettre dans une autre disposition, donc il y a la gravité, on va gonfler l'abdomen, on va commencer à pouiller, il y a des conditions de contact, et finalement, l'organe qu'on est en train de regarder maintenant, ce n'est pas le même qu'on avait regardé la veille.
Exactement.
Et donc, aujourd'hui, le cahier des charges est très strict, parce que le cahier des charges, c'est, par exemple, pour le foie, être capable de donner une prédiction à 2 mm à moins de 20 millisecondes. Donc ça, c'est le cahier des charges pour ce qu'on appelle le temps réel.
Et vous travaillez sur ce sujet.
Et nous, il faut arriver à une précision de 2 mm en 20 millisecondes, sachant qu'on ne connaît pas le comportement, ni les conditions d'appui et, tout le, et toute la richesse qu'il y a à niveau du comportement des organes.
Philippe Cinquin.
Je voulais vous donner un exemple qui va exactement dans le même sens et où cette fois l'enjeu c'est pendant l'intervention chirurgicale ou plutôt pendant l'intervention qui consiste à mettre des grains d'iode radioactifs dans une prostate. C'est un traitement innovant et qui s'applique très bien aux patients qui ont un cancer de la prostate au début et ça permet donc d'éviter des traitements beaucoup plus agressifs. Et ce qui se passe, c'est que lorsque on introduit une aiguille dans la prostate, eh bien, il va se passer ce qu'on peut imaginer si on avait une aiguille et puis un ballon en plastique, c'est-à-dire que la prostate va commencer par reculer. Et ensuite, il va se former une petite déformation de la capsule de la prostate. Elle va se déformer de plus en plus, jusqu'au moment où d'un seul coup, elle va craquer. Et là, l'aiguille va avancer d'un seul coup.
Et alors, l'image du ballon parle d'elle-même.
Voilà. Et, alors, et ça, on a pu le démontrer. On a des images échographiques qui montrent ça très bien. Et donc, ce qu'on a développé, eh bien, c'est un robot qui est capable de conduire la position de l'aiguille. Seulement, il faut être capable de savoir de combien la prostate s'est déformée. Et pour le savoir, eh bien, on met dans le rectum du patient une sonde échographique qui analyse l'ensemble et qui va donc être capable, au moment où ce phénomène se produit, justement, d'analyser la déformation. Ce qui fait que le grain d'iode radioactif, on va pouvoir le positionner à l'endroit qui avait été, pas tout à fait à l'endroit qui avait été prévu, mais on saura où c'est maintenant. Et donc le suivant, l'intérêt d'avoir un robot, c'est qu'on va pouvoir adapter en temps réel le plan de la radiothérapie, de telle sorte que la dose délivrée au patient soit très proche de ce qui avait été prévu initialement.
Rémi Nizard, quand on est chirurgien et qu'on travaille avec un robot, comment ça se passe ?
Alors, avec un robot, aujourd'hui en orthopédie, les robots ont connu un succès pour le moins mitigé. Voire nul, pour différentes raisons qui ont trait au type de chirurgie qu'on réalise. Toutefois, on sait que dans des chirurgies en particulier abdominales, ça connaît aujourd'hui un développement considérable. Là encore, il y a des problèmes de coûts qui sont très importants, puisqu'un robot chirurgical, c'est de l'ordre de 1,5 million d'euros. Et donc, il faut équiper toutes les structures et qui le désirerait de ce type de matériel, et plus les consommables qui sont extrêmement chers. Donc tout ça est assez difficile, mais c'est adapté à un certain type de chirurgie, la chirurgie thoracique, la chirurgie abdominale, mais pas à notre chirurgie aujourd'hui.
Mais d'une façon générale, vous êtes chirurgien orthopédique, oui. Mais vous connaissez le travail de vos confrères. Ça se passe comment quand on travaille avec un robot et qu'on est chirurgien ?
Il y a plusieurs façons. Ces robots un petit peu modernes, comme, voilà, on ne va pas citer de marque, mais ces robots modernes, vous vous trouvez dans une console type console de jeu un peu plus grosse, et puis vous avez le patient et les bras articulés qui se trouvent à distance, c'est-à-dire que vous n'êtes même pas habillé stérilement,
pas au contact
du patient, et vous dirigez vos instruments et votre caméra à l'intérieur d'un abdomen pour aller chercher là où vous devez aller disséquer, là où vous devez passer, là où vous pouvez passer.
Quelles sont les difficultés ?
Les difficultés, c'est la maîtrise de l'outil. C'est certain que la maîtrise de l'outil, ça prend du temps. Et que d'autre part, aujourd'hui, sur ces techniques-là, il n'y a pas de retour de force. C'est-à-dire que vous n'avez que le visuel pour vous diriger. La déformabilité des structures, vous ne la percevez pas, à la différence de ce que vous faites avec des instruments que vous tenez dans une laparoscopie. Voilà, l'enjeu, il est là. C'est d'avoir toutes les informations nécessaires pour réaliser le geste. Et dans toutes les informations nécessaires, vous avez plein de choses. Vous avez le visuel, bien sûr. Vous avez l'auditif quelquefois, des choses qui cèdent sous le doigt, ça s'entend. Mm-hmm. Et puis vous avez également la perception, la palpation, qui est quelque chose de très important sur la dureté des tissus, la facilité de passer dans un endroit ou dans un autre. Ça, c'est très important à bien saisir. Et donc aujourd'hui, ces robots n'ont pas cette capacité à donner le retour de force et la perception du tissu que vous travaillez.
Mais il y a les recherches et les travaux de Francesco Cinesta sur ce sujet.
Exactement, c'est comment rendre les retours de force à tous les outils d'intervention chirurgicale. Donc je pense que là, au niveau des temps de calcul, on y est aux millisecondes aujourd'hui. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on est aux millisecondes sur une idéalisation des comportements du patient. Ce qui est difficile aujourd'hui, ce n'est pas faire des prédictions, c'est faire les prédictions sur les bons comportements. Donc aujourd'hui, je pense que la partie qui nous manque encore, c'est être capable de bien maîtriser les propriétés ou les comportements du contact entre un organe et les boissons, parce que ce n'est pas seulement l'organe sur lequel on applique une force, c'est que l'organe il est placé sur d'autres organes, et quand on applique une force, tous en même temps sont en train de se déformer. Le patient il est en train de respirer, il va donner aussi des déformations, et finalement, il faut faire des prédictions qui sont très précises. À niveau des temps de calcul, ça va encore, si on arrive à identifier les bons comportements de l'organe. Et c'est là où on a besoin des capteurs, d'être capable d'identifier les comportements en temps réel par un méthode inverse. Et à partir de ce moment-là, on peut dire maintenant, on est capable d'aller plus vite que les chirurgiens.
Voilà ce que les travaux que vous menez à l'École centrale de Nantes. Vous travaillez sur ce sujet ?
On travaille sur ce sujet, mais on travaille beaucoup avec l'IHU de Strasbourg, avec l'IRCAD, avec l'INSERM. Donc c'est un travail que ce n'est pas un travail d'ingénieur. Nous, on peut apporter nos connaissances en mécanique, en simulation en temps réel, mais effectivement, il faut les faire sur les vrais comportements et les vrais patients.
Et vous travaillez avec des médecins, des chirurgiens ?
On travaille avec des médecins, avec des chirurgiens, effectivement.
Et il y a des informaticiens, des mathématiciens ?
Là, il y a tout, parce que c'est un carrefour entre l'image, les comportements, l'acquisition des données, les outils des scanners. Il faut faire parler tous ces outils et il faut qu'ils parlent en temps réel. Et seulement à ce moment-là, on aura les visuels, l'auditif et les retours de force.
Mathias Fink, est-ce que vous travaillez avec le corps médical pour développer vos machines ?
Nécessairement, nous sommes obligés de travailler, et c'est, puisque c'est destiné au corps médical, nous travaillons avec eux.
Mais, vous écoutez leurs questions ?
Nous écoutons leurs questions, et justement, j'écoutais le professeur Nizard. En fait, ce qui vous intéresse, c'est plus que l'imagerie de l'élasticité du corps humain, l'imagerie des propriétés visco-élastiques. Et donc, les techniques que nous avons développées sont très efficaces pour avoir l'élasticité. Elles peuvent aussi donner la viscosité si les temps de réponse visqueux sont relativement rapides. Or, votre problème de déformation, c'est un problème de déformation lente. Vous parliez justement d'une échelle d'une demi-heure où les médecins revenant une demi-heure après avaient constaté que les choses avaient bougé. Et donc c'est envisageable quand même de comprendre avec nos techniques comment des temps de réponse lents peuvent être extraits de l'imagerie de ce qu'on appelle les ondes mécaniques lentes, qui sont des ondes de cisaillement. Et je pense qu'il va falloir qu'on rediscute pour voir si ces déformations lentes, on peut les prévoir de façon intelligente avec nos systèmes d'imagerie.
Et vous êtes en train de lui vendre une machine, là, c'est ça ?
Non, presque. Je pense que c'est un peu plus.
Mais c'est plus, c'est plus que ça. C'est la façon de traiter nos informations qui demande d'être plus profonde, plus pointue que la façon dont on le fait aujourd'hui.
Alors c'est amusant parce que moi, en tant qu'enseignant, vous trouvez avec des internes, par exemple, qui un jour se retrouvent avec une fracture du fémur. Le jeune interne, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre ses deux bouts de fémur et tout d'un coup tirer dessus comme une brute en se disant « il faut que j'y arrive vite ». Et tout l'enjeu, c'est de lui faire comprendre, par exemple, que les déformations dans ce cadre-là sont des déformations lentes. Donc tu vas tirer 5 cm, tu vas attendre 2 petites secondes le temps que les tissus se déforment. Enfin, il y a toute cette perception proprioceptive. De la même manière, quand vous allez taper sur un os pour enfoncer quelque chose à l'intérieur de l'os, ce qui fait la richesse de l'expérience, et je ne suis pas très accro de la vision d'expert. Ce qui fait en fait l'expérience, c'est ce que vous sentez. Ce n'est pas tellement que vous êtes beaucoup plus fort techniquement, c'est ce que vous sentez de la déformation des tissus lorsque vous opérez. C'est ça en fait l'expérience. C'est que vous avez acquis de façon intuitive, de façon quasiment dans votre paléo-cerveau, vous vous dites, bah voilà, c'est comme ça que ça va se déformer avec le plus de... Enfin, il y a plus de chances que ça se déforme comme ça, et c'est pour ça que vous allez faire le geste le plus approprié.
Francesco Cinesta.
Oui, c'était pour revenir à l'intervention de Mathias. Il y a une autre difficulté, parce que oui, on parle des propriétés de l'organe, comme si un organe, il aurait une propriété. Un organe, il a une échelle. Et donc, on peut retrouver les tissus, mais on peut retrouver la vascularisation. Et donc, quelles sont les propriétés d'un organe? Ça dépend de l'échelle avec laquelle on les regarde. Et aujourd'hui, on pourrait dire qu'on peut assimiler des propriétés homogénéisées à un organe, mais on ne sait jamais si finalement, dans la réponse mécanique, tous ces petits détails qui sont à une échelle très petite et qui viennent de la vascularisation, qui vient avec une échelle et qui se divise et qui se divise et qui se divise, jusqu'à où est-ce qu'il faut aller dans la caractérisation mécanique pour avoir la bonne réponse.
Alors, je vous écoute tous les cinq et je me dis que vraiment le travail du chirurgien est en train de totalement changer, Philippe Cinquin.
Je pense que le chirurgien, c'est quelqu'un qui est très sensible à toutes les nouvelles technologies. C'est-à-dire que, et c'est une propriété largement partagée par le corps médical, s'il intéresse, c'est son patient. Et à partir du moment où on le convainc et il se convainc lui-même qu'il a quelque chose qui lui permettrait d'être plus efficace, il le prendra sans hésiter. Et effectivement, je pense que l'information, les sciences de l'information sont quelque chose d'absolument essentiel. Donc on l'a vu en apportant des ordinateurs au bloc depuis maintenant une trentaine d'années. Et le métier du chirurgien, d'une certaine manière, c'est précisément d'être capable d'acquérir la bonne information et de prendre les bonnes décisions dans un environnement qui est difficile parce que incertain, incomplet, on n'a pas toutes les informations. Et donc effectivement, le cœur du traitement de l'information, c'est de mon point de vue le modèle. Donc le modèle, ça va de modèles mathématiques, mécaniques, de modèles informatiques aussi qu'il faut être capable de représenter. Et on arrive là maintenant à un enjeu qui est important, qui est d'être capable d'utiliser ce type d'outils pour définir ce que sont les bonnes pratiques chirurgicales. Parce que les bonnes pratiques chirurgicales, ça s'enseigne, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc on a une capacité à décrire une bonne pratique chirurgicale pour une intervention type, disons. Mais on sait bien que dans le cas d'un patient particulier, on ne suivra pas forcément à la ligne l'ensemble de cette procédure. Mmh. Et d'autre part, des experts différents la suivront différemment. Donc être capable d'observer avec des outils qui permettent d'enregistrer les informations de type image, mais aussi les informations correspondant aux positions des objets, des organes, eh bien, ça permet en quelque sorte de définir une sorte de distance conceptuelle entre le geste qui est réalisé et le geste idéal qui correspond justement à cette analyse de l'ensemble des données. Donc le métier du chirurgien va de plus en plus tenir compte justement de cette capacité, à la fois pour réduire la courbe d'apprentissage, parce que c'est un enjeu, et puis pour améliorer ses propres pratiques.
Mais du coup, est-ce qu'on pourrait confier à un robot la réalisation d'un geste chirurgical de A à Z ?
Alors, de mon point de vue, ça n'a aucun intérêt. Je pense que l'enjeu pour nous, c'est clairement de voir quelles sont les limites du chirurgien. Il faut être très modeste, parce que quand on voit le niveau de la qualité chirurgicale, je parle à côté d'un chirurgien, mais je l'aurais dit même s'il n'avait pas été là, ce qui se fait aujourd'hui, c'est déjà d'un excellent niveau en matière de qualité. Donc, et quand on discute malgré tout avec ses collègues, donc ils sont d'excellents spécialistes dans leur domaine, justement, ils connaissent leurs limites et ils vont vous dire, bien que je ne sois pas mécontent sur tel et tel point, il y a ce point-là qui m'ennuie. Et c'est donc celui-là qu'il va falloir viser et essayer de remplacer la totalité du geste du chirurgien sur, mettons, les 90% de sa procédure qui ne lui pose aucun problème. Sincèrement, je pense que c'est du temps gâché. On a plus intérêt à se concentrer justement sur ce qui est aujourd'hui la limite.
Rémi Nizard.
Oui, là-dessus, je vais rebondir parce que je pense que l'enjeu de la chirurgie aujourd'hui, ou en tout cas des résultats en chirurgie, c'est de pouvoir au maximum standardiser les choses. Et donc l'enjeu n'est pas tant de bouleverser les choses que d'avoir un contrôle qualité sur ce que l'on fait. C'est-à-dire être capable de promettre à chaque patient l'un derrière l'autre qu'il aura le traitement optimal. Mmh. Donc si vous voulez, on a nécessairement besoin dans l'évaluation des technologies, des nouvelles technologies, d'essais randomisés par exemple, ça n'a pas de problème, mais on a aussi besoin au quotidien d'avoir une évaluation qualité qui soit permanente, qui soit permise par les systèmes d'information dont on dispose et qui enregistrent même les données à l'insu de tout le monde pour pouvoir faire ces courbes de contrôle qualité et encore une fois pouvoir voir. Parce que ce qui est important à comprendre aussi, c'est vrai que c'est un acte humain. Et dans l'acte humain, il y a des tas de choses qui interviennent. Et donc, les baisses de performance, elles existent chez
Bien
les chirurgiens.
Sûr.
Elles existent. Et il faut pouvoir les détecter très rapidement. Très rapidement. Donc, cette technologie de l'information en temps réel, acquise de façon quasi automatique, permettrait théoriquement de repérer très rapidement ces baisses de performance qui sont très importantes, qui sont capitales, parce que vous n'allez pas être le même au moment où vous allez avoir je ne sais quel ennui dans votre vie quotidienne que quand vous êtes parfaitement bien.
C'est évident.
Oui, mais ce n'est pas fait aujourd'hui.
Et qu'est-ce que vous aimeriez avoir à votre disposition donc, pour rendre les interventions les plus fiables possibles ? Qu'est-ce qui vous manque ?
Le problème de la chirurgie orthopédique, c'est qu'on arrive à un niveau de fiabilité relativement élevé aujourd'hui. Sur des prothèses de hanche ou des prothèses de genoux, vous arrivez à plus de 95%, 97% des patients qui gardent leur prothèse au moins 10 ans. Donc le delta à gagner est très faible. Et l'énergie nécessaire à gagner ce delta, elle va être considérable et peut-être pas utile. Par contre, travailler sur les patients au jour le jour, savoir quelle est votre performance et que vous n'avez pas ces baisses de performance dans une équipe, dans un chirurgien, dans une penseuse, dans un anesthésiste, ça permettra de garantir, à mon avis, la qualité sur le long terme, de promettre à chaque patient qu'il aura les chances optimales d'avoir le bon traitement.
Philippe Cinquin, qu'est-ce que vous aimeriez réussir ?
Ce qui a été décrit là, c'est exactement ça. Typiquement, on a lancé avec le soutien du CNRS, de l'Université Grenoble-Alpes, du CHU de Grenoble et d'une de nos start-up, un laboratoire commun qui s'appelle CQFD, chirurgie à qualité, fiabilité démontrée. Alors, c'est optimiste. L'ANR nous demandait de rêver à 10 ans, donc c'est ce qu'on a fait par ce pari. Mais effectivement, pour nous, l'enjeu, il est là. Être capable d'analyser en temps réel le geste de l'équipe chirurgicale pour lui permettre de garantir un certain niveau de qualité, c'est un objectif tout à fait fabuleux pour nous. Allez, et j'ajouterais que ce qui nous intéressera aussi, c'est non seulement de pouvoir aider le chirurgien dans la réalisation de son geste, mais aussi de pouvoir le prolonger en ayant éventuellement des dispositifs qu'on pourra implanter à l'intérieur du patient et qui pourront prolonger le geste du chirurgien.
Moi, ce qui me plaît, c'est qu'on parle beaucoup de high-tech, mais que l'humain est toujours archi-présent.
Bien sûr, mais bien sûr.
François Cossian, qu'est-ce que vous allez proposer pour les années à venir ? Sur quoi on travaille chez General Electric ?
Je ne vais pas pouvoir vous donner beaucoup de secrets. Il y a des choses qui sont un peu secrètes, mais l'industriel, lui, s'inscrit dans cette dynamique. Mais l'idée de l'industriel, c'est de pouvoir donner aux praticiens des outils validés qu'il va pouvoir utiliser dans la routine clinique. C'est fondamental. Donc il faut des outils qui soient fiables, mais qui soient très bien conçus, qui s'intègrent dans un bloc chirurgical et qui aient une performance constante dans le temps. Il n'est pas question que ça marche une fois sur 10, il faut que ça marche 99% du temps. Voilà. Et donc il y a une grosse variabilité de patient en patient, d'intervention en intervention, et on développe des techniques, on veut développer des techniques qui soient utilisées pour de vrai, avec un vrai service médical rendu, et évidemment un aspect, remplir un service économique aussi. Ce sur quoi on travaille, c'est effectivement améliorer la vie de tous les jours du praticien.
Et vous ne nous avez pas parlé des petits robots que vous mettez au bloc opératoire ?
Alors moi, ce n'est pas des petits robots, c'est peut-être Philippe Cinquin qui
ou
met des petits robots.
Des gros robots.
Moi, c'est plutôt un gros robot. Et donc, on parle là d'une robotique qui n'a rien à voir avec la robotique chirurgicale en tant que telle. On n'est pas dans cette idée que le robot va mener l'acte chirurgical. Mais on a travaillé effectivement sur un concept très intéressant, c'est de se dire, dans un bloc chirurgical, on n'a pas tout le temps besoin de l'imagerie, mais on a besoin d'une imagerie de plus en plus performante. Donc malheureusement, les outils d'imagerie performants, ce sont des appareils assez lourds, et traditionnellement, boulonnés au sol ou montés au plafond sur des rails pour les amener aux patients. Donc on a dans notre entreprise essayé de réfléchir à cette problématique et on a eu l'idée de marier l'imagerie médicale lourde, donc on parle de ce qu'on appelle un gros arceau interventionnel, ça ressemble à un scanner, et on a marié ça avec la robotique mobile. Pourquoi ? Parce que on veut être capable à tout moment d'amener l'imagerie au lit du patient, à la table chirurgicale, avec une précision de positionnement phénoménale, et on veut quelque chose qui soit stable, et on veut quelque chose qui soit totalement automatisé, et qui ne se perde pas dans la salle interventionnelle, dans le bloc chirurgical, en présence d'humains. Donc ça, c'est compliqué, Donc il n'est pas question d'avoir un petit robot qui se balade à toute vitesse dans la salle interventionnelle, ce n'est pas ça. C'est d'être qu'avoir quelque chose qui sait se localiser dans l'espace de la salle chirurgicale et qui apporte, quand on en a besoin, un instrument de haute précision d'un point de vue imagerie et qui va se repositionner et donner des images.
Qui va se ranger tout seul au parking après.
Exactement.
Mathias Fink, qu'est-ce que vous préparez ?
Beaucoup de choses, en particulier tout ce qu'on a fait au niveau de l'imagerie d'élasticité, c'était une imagerie qui était plutôt bidimensionnelle. Aujourd'hui, avec l'électronique de plus en plus rapide et la loi de Moore, cette même imagerie peut être tridimensionnelle, c'est-à-dire qu'on peut imaginer maintenant utiliser des réseaux d'émetteurs d'ultrasons formés de plusieurs milliers d'éléments qui, tous en parallèle, sont traités. Et donc, en particulier pour la planification en chirurgie, des problèmes comme ça, où on a vraiment besoin du côté tridimensionnel pour comprendre tout, c'est l'étape qui est en train d'arriver. Et donc, d'ici quelques années, il y aura des systèmes qui donneront cette imagerie d'élasticité variable dans le temps, mais à trois dimensions. Et là, je pense que la convergence vers la chirurgie deviendra de plus en plus efficace.
Une question très indiscrète, comment un physicien en est venu à se passionner pour les choses de la médecine ?
Disons, je voulais faire de l'imagerie archéologique et à l'époque, je n'ai pas trouvé de moyens pour faire de l'imagerie pour les archéologues et donc j'ai fait de l'imagerie pour les médecins. Et après, le sujet m'a suffisamment passionné. Alors, dernière chose, bien que les physiciens s'intéressent à l'imagerie, ils s'intéressent aussi à la thérapie. Et de temps en temps, on peut remplacer le geste du chirurgien par des faisceaux d'ultrasons extrêmement efficaces qui peuvent être soit très brefs mais très puissants pour détruire à distance des zones et nécroser des tissus. Et donc, on regarde aussi cet aspect destruction sans ouvrir du tout le corps humain, mais destruction magique par faisceau d'ultrasons.
Voilà ce qu'on prépare dans votre laboratoire.
Et dans notre laboratoire, on regarde ça au niveau de la cardiologie pour voir si on peut
Détruire le cœur, non ?
Pas détruire le cœur, mais décalcifier les valves ou améliorer à distance sans ouvrir du tout le patient et sans faire pénétrer le moindre instrument dans le corps.
Et enfin, Francesco Cinesta, qu'est-ce que vous préparez ?
Nous, avec les cubes à Strasbourg, on voudra réussir à créer, adopter les images des mécaniques pour être capable de l'adapter à chaque patient avec son comportement spécifique, les faire précisément, les faire en temps réel et comme les cahiers de charges sont difficiles, ils nous ont demandé de les mettre sur une tablette. Donc ça ne sera pas les grands moyens et les grands ordinateurs. Tout devra passer sur une tablette.
Donc on va vraiment vers une médecine personnalisée, on en parle de plus en plus, mais là, à travers vos propos, vous l'avez montré, high-tech, personnalisée et humaine. Si j'ai quelque chose à retenir de cette heure que nous avons passée ensemble, Monsieur Cinquin, je vous vois faire oui de la tête.
Vous insistez sur l'aspect humain et je vous suis complètement, parce que c'est effectivement ça l'enjeu. Le patient est au cœur de nos préoccupations et l'ensemble des activités scientifiques, médicales et aussi industrielles ont cette cible en tête en permanence.
En tout cas, merci à tous. Merci Mathias Fink, Rémi Nizar, Philippe Cinquin, François Caussian et Francesco Cinesta.
Vous écoutez la Wikiradio du CNRS, une web radio participative et collaborative.